La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Eh bien bonjour chers auditeurs, auditrices, je suis Patrick Saporito de l'église protestante de Cahors. Vous rappelez-vous des histoires de prince charmant monté sur un cheval blanc qui vient délivrer sa belle aux mains des méchants? Ces histoires tirent leur inspiration des récits bibliques, où le bien triomphe finalement du mal. La fois dernière, dans le chapitre 4 et 5 du livre de l'Apocalypse, la parole de Dieu nous avait emmenés dans l'adoration avec la vision du trône de Dieu au ciel, Dieu trois fois saint, et vision de l'agneau immolé, Jésus, le seul trouvé digne d'ouvrir le livre scellé de sept sceaux dans la main de Dieu. Jésus, celui qui offre le pardon à toute personne qui se repent et qui croit en lui, est aussi celui qui va initier les sept jugements successifs à venir à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 16, avec les sept sceaux, les sept trompettes dans le septième sceau et les sept coupes. Lisons la suite au chapitre 6 et 7 du livre de l'Apocalypse. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Aser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « « Mon Seigneur, tu le sais ?» Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. » Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen donc jusqu'ici la parole de Dieu. De ce texte ressort cette vérité centrale que Dieu est patient jusque dans son jugement même. D'où une raison supplémentaire de le louer. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre d'adoration, pas seulement de jugement. Je vous propose de voir cela en 4 points. Premièrement, nous verrons les 4 jugements envoyés sur la terre. Deuxièmement, nous verrons que le jugement est retenu jusqu'à quand. Troisièmement, nous verrons la question « Qui peut subsister au jugement venu du ciel ?» Et quatrièmement, nous verrons une louange au ciel par qui. Premièrement, nous voyons les 4 jugements envoyés sur la terre. Le jugement va venir de tous côtés. Dieu exerce sa souveraineté sur le monde entier. Jésus, l'agneau de Dieu, ouvre successivement les sceaux et pour les 4 premiers, chacun des 4 êtres vivants associés au trône de Dieu va appeler un cavalier. Le premier cheval est blanc et vous remarquerez l'insistance. Il part en vainqueur pour vaincre, chapitre 6, verset 2, avec une couronne donnée avant la bataille. Ce cavalier blanc est là pour dire que la victoire est assurée, pour fortifier le peuple de Dieu. Dans ce même livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 11, nous lisons « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Et dans ce même chapitre 19, verset 14, nous lisons « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. » Fin de citation. Dieu est appelé dans la Bible l'Éternel des armées, ou psaume 24, verset 10. On peut voir dans ces cavaliers tout blancs le peuple de Dieu qui suit Jésus à sa ressemblance, monté lui sur un cheval blanc. Ce n'est pas le premier cavalier blanc qui provoque la guerre. Il a un arc, mais aucune flèche n'est mentionnée. Ce n'est qu'après l'ouverture du deuxième sceau qu'un second cavalier monté sur un cheval roux recevra une épée et le pouvoir d'enlever la paix sur la terre pour que les hommes s'égorgent les uns les autres. Cette épée sera pour les hommes qui auront refusé l'épée de la parole de Dieu, celle qui apporte la vraie paix avec Dieu et entre les hommes. La couleur rouge et l'épée évoquent le sang versé dans une guerre civile internationale, le corps à corps. Voir Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 6 et 7. Lorsque Jésus ouvre le troisième sceau, le troisième être vivant associé au trône appelle un cheval noir, monté par un cavalier avec une balance à la main, versets 5 et 6. Le troisième jugement à s'abattre sur la terre est la famine. Pour s'acheter une mesure de blé, soit la nourriture quotidienne d'une personne, il faudra un prix exorbitant, un denier équivalent au salaire de toute une journée. À ceux qui auront refusé d'entendre la nourriture spirituelle de la parole de Dieu, Dieu promet la famine physique pour qu'ils aient faim et soif de la parole de Dieu. Voir aussi le livre d'Amos, chapitre 8, verset 11 dans la Bible. Certains s'offrent des voyages touristiques en fusée dans l'espace pendant que d'autres vendent leurs enfants pour manger. La balance est là pour rappeler que l'injustice ne durera pas toujours. Blé, orge, vin, huile appartiennent à Dieu et nous sont donnés comme toute nourriture nous est donnée par Dieu. L'huile que Dieu demande d'épargner rappelle l'onction du Seigneur. C'est lui qui dispense ses ressources, ses biens. Le vin rappelle le sang de Jésus par qui nous avons le pardon des péchés. Le vin et l'huile, encore disponibles, rappellent que même en s'étant troublés, certains pourront encore venir à Jésus, pourront encore se convertir. Ouverture du quatrième sceau par Jésus, versets 7 et 8. Un cheval pâle, monté par son cavalier qu'est la mort, accompagné du séjour des morts. Ni même la mort physique, ni la mort spirituelle, représentée par le séjour des morts, ne pourra constituer un abri pour les pécheurs non repentis qui risquent l'enfer dans leur jugement. La mort vient finir le travail en quelque sorte des deuxième et troisième jugements, l'épée et la famine, avec en plus les épidémies, la peste. Mais le jugement est encore partiel, puisque le cavalier de la mort ne sévit que sur un quart de la terre. Alors, mon deuxième point, le jugement est retenu jusqu'à quand? Ouverture du cinquième sceau. L'apôtre Jean voit les âmes des martyrs qui ont été persécutés et tués à cause du témoignage de Jésus au cours des siècles, pas seulement pendant la grande tribulation de la fin des temps. Pour l'essentiel, les événements des cinq premiers sceaux ont déjà eu lieu. Les quatre fléaux destinés aux nations avaient déjà été envoyés sur Israël à cause de sa désobéissance. Nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, verset 21, « Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. » Fin de citation. Oui, les chevaux ont couru au XXe siècle. On compte plus de 100 millions de morts suite aux guerres, dont la moitié pendant la Seconde Guerre mondiale. L'organisation du sel fait état d'une famine grandissante depuis la pandémie, aggravée par la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on voit bien que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres encore plus pauvres, de par la mondialisation du commerce. Des pestes, il y en a eu, avec les épis de choléra, la grippe espagnole et maintenant le Covid. Ces chevaux courent encore et vont continuer à courir. Des personnes mourront encore pour Jésus. Celles déjà mortes en martyrs sont au ciel, sous l'autel, nous dit le texte, à cause du sacrifice de leur mort. C'est une place d'honneur devant Dieu. Ils reçoivent une robe blanche, symbole de pureté. Entendons-nous bien, ce n'est pas de verser notre sang qui nous lave de nos péchés, mais seul, je cite, « le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché ». Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7. Les martyrs non seulement avaient été lavés de leurs péchés par le sang de Jésus, comme nous, qui croyons en lui par la foi, ce que symbolise le vêtement blanc, mais en plus, ils ont versé leur sang pour Jésus, pour ne pas le renier. Alors ce sang des martyrs crie et réclame que justice soit rendue. Ordre leur est donné d'attendre patiemment d'ici là. Jusqu'à quand ? Demande-t-il. Réponse : jusqu'à ce que leur nombre soit au complet au ciel, c'est-à-dire jusqu'à ce que la coupe de méchanceté soit pleine avec l'avènement de l'Antéchrist qui précédera celui du Christ. La mort du dernier martyr déclenchera le grand jour de l'Éternel et les justes jugements s'abattront sur les coupables. Sixième sceau ouvert par Jésus, après les interventions humaines dirigées par Dieu, voici son jugement venu du ciel directement, comme une réponse au cri des martyrs « jusqu'à quand ?» Et vient alors cette autre question, mon troisième point, qui peut subsister à ce jugement venu du ciel ? Jugement caractérisé par un tremblement de terre, le ciel qui s'enroule, la lune et le soleil qui changent de couleur, les étoiles qui tombent sur terre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Les incroyants préfèrent se laisser écraser par les rochers qui tombent plutôt que de faire face au jugement divin, à la colère de l'agneau qu'ils voient donc au ciel, et ils comprennent ce qui se passe. Il n'est pas dit la colère du lion de Juda, mais la colère de l'agneau. Le commentateur Matthew Henry a dit ceci. Car si le Rédempteur lui-même, lui qui apaise le courroux de Dieu, est notre ennemi, où pourrons-nous trouver un ami pour plaider notre cause? Fin de citation. Qui pourrait bien survivre dans de telles circonstances? D'où la question, qui peut subsister? Question posée aussi bien par les puissants, les rois, que par les gens ordinaires, esclaves ou libres. À deux reprises, chapitre 6, verset 6 et chapitre 7, verset 3, revient l'expression « ne faites pas de mal ». Eh bien, il sera possible de s'en sortir. La réponse se trouve dans le livre de Joël au chapitre 2, les versets 31 à 32, donc dans l'Ancien Testament, que je cite. « Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Et l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 13, cite ce passage de Joël, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Fin de citation. Et oui, Dieu est patient pendant son jugement même et permettra encore aux hommes qui ne l'auront pas encore fait de se repentir et d'accepter Jésus comme leur sauveur pendant la grande tribulation, aussi bien des juifs que des non-juifs. Dieu permettra qu'ils passent par l'épreuve en même temps que le jugement des incroyants pour qu'ils soient sanctifiés, purifiés, et qu'ils reçoivent une robe blanche et rejoignent les autres croyants au ciel. Voilà pourquoi Dieu retient encore les quatre vents de son jugement total sur la terre. Pendant combien de temps? Eh bien, le temps de marquer du sceau de Dieu 144 000 de ses serviteurs. Un sceau sert à marquer la propriété et l'authenticité. Le chrétien appartient à Dieu. Il n'y a pas de contrefaçon. Toute personne repentie et ayant placé sa foi dans le Seigneur Jésus et son sacrifice à la croix a déjà été marquée du sceau du Saint-Esprit. Et l'épître de Paul aux Éphésiens dans le Nouveau Testament, chapitre 1, verset 13, nous dit « En lui, donc en Jésus, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Fin de citation. Le sceau sert aussi à protéger, sans empêcher les souffrances pour autant. Par cette marque, Dieu met à part et scelle ceux qui lui appartiennent, ce qui n'est pas sans rappeler la Pâque juive où les Juifs, ayant marqué leur linteau avec du sang, avaient été protégés durant la dixième plaie d'Égypte. Voir livre de l'Exode, chapitre 12, verset 13. Qui sont ces 144 000? Eh bien, il y a plusieurs avis différents là-dessus. Certains y voient symboliquement le peuple entier de Dieu. Pour ma part, je crois qu'on peut prendre ce chiffre au sens littéral. Il s'agit de 144 000 juifs, soit 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël qui sont citées, et qui vont devenir chrétiens pendant la grande tribulation. Pourquoi? Parce que juste après, au verset 9, il est question d'une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, nous dit le texte, à la différence des 144 000. D'où cette autre question concernant cette grande foule au verset 13. Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Mon quatrième point. Une louange au ciel par qui? Cette grande foule en robe blanche devant le trône en train d'adorer Dieu pour son salut, c'est le peuple entier de Dieu qui a été lavé de ses péchés par le sang de l'agneau Jésus-Christ. Le verset 9 marque l'arrivée au ciel du dernier martyr. Ceux morts en martyr pendant la grande tribulation se rajouteront aux croyants de tous les temps, déjà au ciel, lavés de leurs péchés par Jésus. Et tous loueront le Seigneur pour son salut. Le mal aura une fin. La victoire du bien sur le mal est certaine et sera totale. Dieu est au contrôle sur tous ces événements. Rien n'arrive sans qu'il ne le permette, même la mort de ses enfants. Lui seul connaît la réponse à la question des martyrs « jusqu'à quand ?» Lui seul connaît leur nombre exact. Pour nous, Église de Jésus-Christ, Dieu a tenu à nous informer par avance de cette détresse, sans précédent, par sa parole, pour nous consoler et nous fortifier. Alors soyons reconnaissants pour sa parole, gardons sa parole avec foi, elle nous gardera si nous la gardons. Pour les autres, pas encore sauvés, qui n'auront pas cru en l'amour de Dieu en Jésus-Christ, le jugement sera juste, mérité et nécessaire. D'autant plus que Dieu a annoncé par avance ces jugements, comme pour leur laisser une dernière chance de se repentir et de se convertir. Quelle patience de la part de Dieu qui leur donnera encore une possibilité de se tourner vers lui, mais cette fois pendant la grande tribulation avec son lot de souffrances. Il n'y a pas photo. Mieux vaut se convertir avant ces événements terribles. Alors si vous n'êtes pas sauvé de vos péchés, n'attendez pas. C'est maintenant le jour du salut. Allez à Jésus-Christ, c'est lui seul qui sauve, pas une église particulière, catholique ou protestante. Repentez-vous et croyez que Jésus, l'agneau immolé, s'est sacrifié pour vous à la croix et est ressuscité. Et voici la promesse de la parole de Dieu, Dieu qui ne ment pas. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 3, versets 19 et 20. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Fin de citation. Pour autant, Dieu consolera tous ses enfants qui auront souffert pendant la grande tribulation. Lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il habitera parmi son peuple. L'agneau, Jésus-Christ, les conduira aux sources d'eau vive, eau vive qu'il est lui-même. Les versets 15 à 17. Le verset 16 du chapitre 7 est une citation du livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 10, dans l'Ancien Testament, donc, que je lirai. « Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. » Fin de citation. Sur la croix, Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 28, « J'ai soif !» pour que nous n'ayons plus jamais soif si nous croyons en lui.
Romains chapitre 10, verset 13.